Maintenant, on poursuit notre série ce matin. Et juste faire une petite révision très, très rapide pour se replacer. C'est une série sur la miséricorde de l'Évangile. Et dans notre premier exposé, on avait vu ensemble, on l'a intitulé « Shalom ». Dieu a créé l'humanité, les êtres humains, pour vivre dans un lieu de paix, un lieu paisible, un lieu où il y aurait le shalom de Dieu. Son shalom devait être présent. Et cette paix-là, cette habitation de Dieu, cette présence de Dieu a été brisée par le péché. Maintenant, depuis la création, depuis l'origine, Dieu annonce qu'il veut rétablir ce shalom-là. Et donc, aujourd'hui, nous, comme chrétiens, nous attendons le retour de Christ, où cette paix de Dieu va être présente, réelle, physique. Chacun va être en communion avec Dieu, et nous sommes entre les deux. Déjà, on est entré dans la paix avec Dieu parce que nous sommes réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qu'on vient de chanter à travers le dernier chant. Et nous sommes ici comme Église pour incarner ce shalom de Dieu. Une communauté chrétienne, c'est un lieu où on a, on va dire des fois, un avant-goût du ciel. Déjà, on entre dans la présence de Dieu lorsqu'on entre en communion avec l'Église et on peut découvrir l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, l'Église est appelée à vivre cette miséricorde divine où Dieu veut faire entrer les gens dans son shalom. On a parlé ensuite de la justice, parce qu'évidemment, dans un monde où cette paix de Dieu n'est plus présente, l'injustice est présente. Les gens ne sont plus traités avec la dignité avec laquelle ils devraient être traités. Dieu n'est pas honoré comme il devrait l'être. Et donc, on veut incarner cela pour la communauté, pour les gens de la ville, pour les gens de l'extérieur, en Église ensemble. C'est troisièmement un lieu où on va voir l'amour, la compassion s'exprimer concrètement. Et Basile l'a bien développé la semaine dernière où cette miséricorde, c'est l'amour qui passe à l'action. C'est la compassion qui s'exprime, se manifeste, quitte à faire des détours dérangeants, quitte à être dérangé dans notre amour, à déranger notre horaire pour se donner pour l'autre, pas aider simplement mon prochain que je définis comme celui qui m'est semblable, identique à moi, mais peut-être l'étranger, celui pour qui ça va me coûter plus cher d'aller l'aider. Et ce matin, on continue en parlant de générosité. On parle de ce que le chrétien est appelé à faire avec ces bontés divines que Dieu nous donne, les possessions qu'il nous donne, les ressources qu'il nous donne. On est appelé à agir avec miséricorde, même avec ces ressources-là qu'il nous donne. Et ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller dans la lettre de Jacques. Puis vous pouvez tourner déjà avec moi dans la lettre de Jacques. Jérémie va venir nous lire un passage. Ça ne sera pas tellement long, mais ce qui est particulier avec Jacques, c'est que pour Jacques, la foi n'a absolument rien de théorique. Pour Jacques, croire en Dieu, ce n'est pas quelque chose de mystique, de mystérieux, d'étrange, que les gens ne savent pas comment appliquer. Pour Jacques, la foi se traduit en action. Et une foi qui ne se traduirait pas en action, c'est probablement une absence de foi pour lui. Donc Jacques est très concret. Il veut voir le fruit de cette foi-là mise en œuvre. Et il n'y a pas de... Ce n'est pas une foi secrète, ce n'est pas une foi qui est pour moi. Si tu as la foi, tout le monde le sait. Si tu as la foi, tout le monde le sait parce que tout le monde le voit. Tout le monde le voit parce que ta vie est différente. Alors, je vous avertis tout de suite, quand Jacques parle de possession, de biens matériels, d'argent, de générosité, il est vraiment dérangeant. Il est vraiment dérangeant. On va aller ensemble dans un mot de prière. On va écouter la parole de Dieu. Père, on veut déclarer ce matin, avant d'écouter ta parole et de te laisser venir nous bouleverser, on veut déclarer, Seigneur, que tu as le droit de nous parler de générosité. Seigneur, tu as tous les droits parce que tu es Dieu, tu es notre Créateur. Mais Seigneur, tu as ajouté à ces droits, Seigneur, le don de ton Fils. Tu as fait preuve de la plus grande des générosités possibles, Seigneur. Seigneur Jésus, en venant mourir sur cette croix, Seigneur, tu t'es acquis tous les droits de nous provoquer, nous remettre en question, nous challenger sur notre propre générosité, Seigneur. Si nous sommes chrétiens, c'est que nous sommes les bénéficiaires, Seigneur, de ta générosité, Jésus. Une générosité sans borne qui t'a coûté la vie sur cette croix, Seigneur. Alors, je veux te prier, Seigneur, de venir parler à nos cœurs ce matin. Nous avons besoin d'entendre ta parole parce que, comme tous les êtres humains, nous avons des angles morts, Seigneur. Et on vit à une époque et dans une culture où la moyenne de la richesse humaine a atteint des sommets inégalés dans l'histoire de l'humanité. Et nous vivons dans une culture, dans une société qui est extraordinairement riche, et pourtant, possiblement qu'aucun d'entre nous ne se sent riche, Seigneur. Nous devons avoir des angles morts, c'est sûr. Viens nous parler, Seigneur. Nous t'invitons à venir nous troubler, à venir nous réconforter avec l'Évangile, à venir mettre nos cœurs au défi, Seigneur, de devenir généreux comme toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Jacques 2, versets 1 à 10, dans la nouvelle édition de Genève. Jacques 2, versets 1 à 10, dans la nouvelle édition de Genève. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assis-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre? N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous.
Merci, Jérémie. Alors, si vous êtes en visite ici ce matin, puis vous dites, qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais dans une église, puis ils m'ont parlé de fric un matin. C'est comme la dernière affaire que tu vas entendre parler dans une église. Malaise. Parce qu'il y a des... n'est-ce pas, l'église a été parfois associée avec des abus ou avec des situations où on parle constamment d'argent, mais vous devez savoir qu'il fut un temps où le politiquement correct ne dominait pas tout, puis on pouvait parler des vrais sujets. Charles Haddon Spurgeon, un des plus grands prédicateurs, peut-être le plus grand prédicateur du 19e siècle, a dit ceci. « Pour certains chrétiens, la dernière partie de leur personne qui en vient à être sanctifiée, c'est leur poche. » Assez clair? Il avait le droit de dire ça au 19e siècle. Fait qu'on va le mettre sur son dos, c'est bon? Voici ce qu'on va voir ensemble ce matin. L'argent, nos possessions, les biens matériels, mettez tout ça ensemble, c'est une expression de la bonté de Dieu envers nous. L'argent est une expression de la bonté de Dieu envers nous, et en posséder, en avoir, dit très peu sur moi en réalité. Parce que l'Évangile me conduit dans la générosité. On va voir ensemble ce que Jacques vient brasser. Jacques 2, les versets 1 à 4, je vais juste relire ça. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là, debout. » Ou bien, « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Avec Jacques, l'argent, les biens matériels, ce n'est pas un sujet privé. Pour Jacques, il n'y a pas de malaise. C'est un sujet qui doit être mis sur la table. Dans la vision que Jacques a du christianisme, les chrétiens devraient pouvoir parler librement entre eux, dans des petits groupes, autour d'un café, en famille, de leur manière de gérer de l'argent, de gérer les biens matériels, de la place que ça occupe dans nos vies. Est-ce que ça occupe trop de place, pas assez de place? Est-ce qu'on gère ça avec intégrité? Est-ce que l'Évangile, les valeurs de l'Évangile sont reflétées à travers notre manière de gérer nos sous? Ça devrait être des sujets aisés à discuter ensemble. Ce n'est pas du domaine privé pour Jacques. Ça n'existe pas, un domaine privé dans la foi de Jacques. Maintenant, je sais, l'Église a souvent été associée à travers les anges, parce qu'il y a des scandales, toutes sortes de choses avec des abus, même au niveau financier. Mais lorsqu'on fixe les regards là, puis qu'on s'interdit après ça d'oser parler de ça, on oublie quelque chose d'important. C'est qu'à travers tous les anges, l'Église a toujours été, dans une ville, les églises qui sont présentes, les endroits par excellence où on prenait soin des gens démunis. Si vous étudiez l'histoire de l'Église à travers 2000 ans, vous allez voir, l'Église a toujours été l'endroit où on prend soin des démunis. Et je crois que vous pouvez me suivre, vous pouvez comprendre lorsqu'on dit qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas aller vers les démunis, aider les gens dans le besoin, sans exhorter les chrétiens à devenir généreux avec leurs biens. Donc ce matin, vous ne m'entendrez pas parler de donner à l'Église. Vous allez m'entendre parler de l'Église qui prend soin de l'Église, de l'Église qui prend soin de l'Assemblée, qui prend soin des gens de l'Assemblée, des gens plus démunis en son sein, des gens à l'extérieur, des gens que Dieu place sur notre chemin. Mais on doit en parler parce que ça parle énormément de notre foi. L'argent a une dimension morale pour Jacques. Ce n'est pas comme quelque chose d'objectif, de neutre. C'est quelque chose qui parle de nous, de notre moralité. Et ça, c'est évident pour tous, il me semble. La manière que Jean Messou parle de mes valeurs personnelles. Mes priorités financières parlent de mes valeurs personnelles. Ma générosité, ou si je suis Monsieur Scrooge, parle de mes valeurs personnelles. Et donc, pour Jean, ça a une valeur morale, l'argent. Et une des premières choses que Jacques va déclarer par rapport à l'argent, c'est que nos possessions matérielles ne définissent pas notre identité. Puis ça a de l'air comme évident. On se dit, oui, c'est vrai, nous, on est chrétiens, c'est pas mes biens matériels qui définissent mon identité. Mais vous allez voir que ça colle pas mal plus profond qu'on pense. Donc, Jacques dit au chapitre 1, versets 9 à 11, je vais me promener un peu dans la lettre de Jacques ce matin, il dit « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. » De quoi il parle? Écoutez la suite. « Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. » Puis ce que Jacques est en train de dire, c'est que quand tu viens à la connaissance de Jésus-Christ, quand tu viens en contact avec l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il y a comme une révision profonde de ton identité. Tout ce que tu définissais comme te donnant de la valeur, comme définissant ta valeur, ton identité, avant de connaître Jésus-Christ, perd son sens. Parce que lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, tu trouves ton identité dans le fait que tu as été aimé de Dieu. Amen. Tu Tu as été pardonné pour tes péchés. Christ t'a aimé. Ton identité se trouve là. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Mais là, ça vient bouleverser notre vision des biens matériels. Ça veut dire que la personne la plus pauvre, lorsqu'elle vient à l'Évangile, devient la personne la plus riche. Sa pauvreté ne veut plus rien dire sur sa valeur personnelle, du moins aux yeux de Dieu, puis dans l'éternité. Ça ne veut plus rien dire. Et puis le riche, lui, qui s'en allait dans la vie en disant, « Regarde, je me suis établi, j'ai travaillé fort, je me suis assuré un avenir, j'ai un standing. » Pour venir à l'Évangile, pour accepter Jésus-Christ, le riche doit reconnaître que tout ça n'a aucune valeur devant Dieu. Que toutes tes richesses, ton standing, ton statut, ton pouvoir économique, n'importe quoi, tout ce qui fait que les gens se comportent autrement lorsqu'ils entrent en ta présence. Tu sais. Oh, attends un petit peu, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Pour venir à l'Évangile, pour comprendre ce que Jésus a fait, il va falloir que tu acceptes que devant Dieu, tout ça vaut rien parce que tu es un pécheur. Tu es un pécheur fini, puis tu ne pourras pas signer un chèque pour rentrer au ciel. Ça ne servira à rien. Et donc, pour un riche, de venir à l'Évangile, c'est d'être humilié. Vous me suivez? C'est d'être humilié. Parce que j'avais un standing, mais je suis obligé de renoncer à tout ça devant Dieu. Et puis Jacques va plus loin parce qu'il dit, mais lorsque tu saisis l'Évangile, tu réalises que la plus courte portion de notre vie se passe ici sur Terre. Qu'en perspective de l'éternité, je veux dire, notre vie sur Terre, c'est comme, je ne sais pas moi, c'est rien. C'est une milliseconde, c'est pas ça, c'est rien. Fait que tu sais, ton standing dans l'éternité, je veux dire, tu vas partir nu comme un ver, mon vieux. Le seul vêtement que tu vas avoir, c'est celui qu'on a décrit tantôt dans le chant. C'est la justice de Christ. Ça va être ton vêtement. Et donc, le pauvre et le riche vont être revêtus du même vêtement lorsqu'ils vont entrer dans l'éternité. C'est pourquoi Jacques dit, la richesse est temporaire. C'est pas là qu'on va définir notre identité, notre valeur. Pour le riche, devenir chrétien, c'est humiliant. Pour le pauvre, devenir chrétien, c'est wow, quelle gloire incroyable. Et Jean nous dit que cette vérité fondamentale sur notre identité, cette nouvelle lecture des biens matériels, du standing social, ça doit sauter aux yeux quand j'arrive dans l'Église. Il y a une révolution sociale qui doit être évidente lorsque j'entre dans une Église locale. Cette disparité-là, qu'on voit dans la société, doit disparaître lorsque j'entre dans l'Église. Et c'est ça que Jacques est en train d'adresser au verset 9. Regardez avec moi Jacques 2, 9. Et je pense que ça, c'est le plus gros défi. Ce que Jacques adresse ici, je crois que c'est le plus gros défi dans tout ce qu'on va voir ensemble ce matin. Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point on est imprégné de ça. Jacques 2, 9, « Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi mais pèche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Jacques dit un peu plus loin, il va dire, « À quoi ça sert que tu me dises que tu as la foi si lorsque je regarde tes œuvres, je vois une contradiction avec ta foi? » Moi, je vais te montrer mes œuvres, puis tu vas en conclure que ça, c'est la vraie foi. Puis Jacques nous dit que s'il y a du favoritisme dans mon cœur, si ma manière de regarder les gens m'amène à faire preuve de favoritisme, je suis en train de pécher. Il y a quelque chose d'essentiel à l'Évangile que je néglige, qui n'est pas venu révolutionner toute ma pensée. Puis honnêtement, peut-être vous lisez ça puis vous dites, « Mais moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de favoritisme. » Plus je méditais sur le passage, plus je priais, puis je disais, « Seigneur, c'est... » J'ai beau vouloir, c'est vraiment difficile pour moi. Laissez-moi vous faire réfléchir un petit peu. Vous souhaitez être invité à manger par qui? Par un pauvre ou par quelqu'un qui a une belle maison, qui aime la bonne bouffe, qui a un gros barbecue, puis qui risque de vous servir un gros steak? Avez-vous une préférence? Faites-vous du favoritisme? C'est difficile. Sérieux, c'est vraiment, vraiment difficile. OK, vous pensez à la conversion d'une personne. Tu sais, quelqu'un qui va devenir chrétien. Est-ce que, comme par réflexe, vous vous dites, Bill Gates se convertit ou Brad Pitt se convertit ou un itinérant se convertit, même impact pour le royaume? Tout à la gloire de Dieu, tout va bien. Moi, je ne sais pas, je veux dire, dans mon cœur, j'entends, oh, telle personne est en train de s'approcher du Seigneur, il est toujours en dessous des projecteurs, c'est comme, oh, ça va être puissant, tu sais. OK. Pas de favoritisme. Tout à l'heure, je vous accroche, puis je vous dis, hey, je veux te présenter quelqu'un. Est-ce que ça va faire une différence si je te présente un itinérant qui vient et qui a besoin d'une place pour aller dîner ou Bill Gates qui vient de rentrer et qui aimerait inviter quelqu'un au restaurant? Change-tu quelque chose? Honnêtement, moi, ça change quelque chose dans tous les cas. Je n'étais pas capable, même quand j'étais devant le Seigneur, puis j'étais en train de me préparer, de dire, Seigneur, ça ne change rien dans ma vie. Je n'étais pas capable de le faire. C'est triste, mais c'est la vérité. Si je suis honnête avec Dieu, j'ai énormément de difficultés à ne pas faire de favoritisme. Au moins en penser, tu sais. Bon, j'ai appris à être un bon chrétien, là. J'ai appris à garder ça le plus possible en dedans, puis avoir de l'air spirituel, là. C'est ça, un bon chrétien? Mais c'est dur! C'est pas ça, un bon chrétien, vous comprenez, c'est une blague. C'est dur de ne pas faire preuve de favoritisme. C'est vraiment difficile. C'est comme là, à l'intérieur de nous, il y a un standing. Il y a des gens comme, « Wow, j'aimerais ça me tenir avec ces gens-là. » Il me semble que ça serait le fun. Écoute, le monde te dit ça. Le monde te dit, si tu veux réussir dans la vie, entoure-toi de gens qui réussissent. Comment tu fais pour prêcher l'Évangile aux pauvres? C'est parce que dans leur standard à eux, les pauvres, c'est des losers. Fait que si je m'entoure de losers, qu'est-ce qui va se passer? Comprenez, ça, c'est la pensée du monde. C'est là partout, là. Tout le courant du self-help movement, c'est « Entoure-toi de gens riches, tu vas devenir riche. » Puis l'Église, pendant 2000 ans, elle a dit « Non, il faut aller vers les pauvres, il faut aller aider les pauvres, il faut avoir à cœur les pauvres, il faut leur ouvrir notre maison. » C'est tout le contraire. C'est vraiment difficile de ne pas faire preuve de favoritisme. Et l'argument que Jacques fait, c'est que tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on possède nous vient en définitive de la part de Dieu. Dans Jacques 1, verset 16-17, Jacques dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Je vous cite Tim Keller, puis ça définit bien, je crois, cette vérité-là. Nos plus grandes richesses, nos plus grands talents ne viennent pas de nous, c'est Dieu qui nous les a donnés. Keller dit ceci, « Si vous avez de l'argent, du pouvoir et un bon statut aujourd'hui, cela est dû à l'époque et à l'endroit où vous êtes né, à vos talents, vos capacités, votre santé, toutes des choses pour lesquelles vous n'avez aucun ou très peu de mérite. En fin de compte, toutes vos ressources vous sont des cadeaux de Dieu. » Corée du Nord, on entend parler de ce temps-ci, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il mettait la Corée du Nord sur la map. Corée du Nord, 24 millions de personnes, quand même une bonne population. Canada, 36 millions de personnes. T'as fait quoi, toi, pour mériter de naître au Canada? Moi, j'ai rien fait. Je disais, pourquoi toi, t'es né ici et t'es pas né là-bas? Parce que Dieu l'a décidé. Parce que Dieu l'a décidé. Parce que Dieu a décidé de te bénir. Tu es né dans un pays où c'est possible d'étudier, où la pauvreté est très relative comparativement à la pauvreté à plein d'endroits dans le monde, où la liberté existe. Puis j'ai pas de mérite pour ça. Puis il y a des personnes qui sont super talentueux, puis d'autres qui le sont moins, puis ils n'ont pas de mérite pour ça. Et donc, ce que Jacques nous rappelle, c'est que toute grâce nous vient de Dieu en définitive. Puis c'est vrai qu'il y en a qui travaillent fort, puis il y a un certain mérite à travailler fort, mais vous comprenez qu'il y en a qui n'auront jamais de santé pendant toute leur vie, puis qui n'ont rien fait pour ne pas avoir de santé. Puis peut-être que tu as un petit mérite sur ta santé, parce que tu as travaillé fort pour garder ta santé, puis tu checks ce que tu manges, tu fais de l'exercice, tu essaies de dormir le soir. Ah, mais toi, tu n'as pas un cancer, puis l'autre, il y a un cancer, puis je suis désolé, ça ne marche pas comme ça, là. Pas parce que tu as mangé plus de carottes qu'il n'y en aura pas de cancer. C'est des grâces de Dieu. Et donc, Jacques est en train de nous dire, dans l'Église, on doit constamment être en train de combattre ce réflexe d'une pensée du monde qui attribue une valeur différente aux individus selon leur standing, leur possession, leur capacité. On doit reconnaître que notre vraie valeur, notre identité se trouve en Jésus-Christ. Et cette réalité-là doit nous permettre, dans l'Église, d'aplanir cette espèce de distinction-là qu'on fait. Dans notre regard les uns envers les autres, dans la dignité qu'on donne à la personne qu'on regarde, quelle que soit sa condition, quel que soit son statut. Et si je veux être honnête avec moi-même, j'ai encore beaucoup de travail à faire dans mon cœur. Puis pourtant, Dieu sait que je m'entoure de gens, puis je vais vers des gens qui sont dans le besoin. Et Dieu m'accorde le grand privilège d'être impliqué à Bouffe pour tous. Puis il y a des gens là qui ont des vies pas mal plus compliquées que la mienne, avec moins de ressources pour faire face à la vie. Donc, c'est pas que je les aime pas, mais si je veux être honnête avec moi-même, dans mon cœur, il y a des angles morts encore. Alors, une fois que je comprends que mon identité ne se trouve pas dans mes richesses et que mes biens sont premièrement des cadeaux de Dieu, je peux commencer à réfléchir, je peux commencer à apprendre comment est-ce que Dieu veut que je me serve des ressources que Dieu m'a données, des richesses que Dieu m'a données. Et pensez pas seulement à l'argent, aux biens matériels, des ressources personnelles, de l'éducation que j'ai reçue. Ça aussi, c'est des richesses incroyables, de ma connaissance, de la culture peut-être que j'ai. Là, je peux commencer à réfléchir à ça. Alors, tournez avec moi dans Jacques 5. Vous allez voir, il est tellement dur. Puis, je veux juste vous dire, avant de lire le passage, que la lettre de Jacques est écrite à des chrétiens. OK? Parce que vous allez entendre ça, vous allez dire, OK, il ne parle pas à des chrétiens. Là, il a décidé qu'il attaquait les méchants riches dans la société. Non, non, c'est une lettre pour les chrétiens, d'accord? Jacques 5, verset 1. « À vous maintenant, riches! » Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné et vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. J'en conviens, Jacques est en train de s'adresser à ce que les riches étaient lorsqu'ils étaient dans le monde. Puis il est en train de remettre en question les gens qui se convertissent. Vous devez savoir que lorsque l'Église a commencé, d'abord, la qualité de vie dans le monde ne ressemblait pas à la qualité de vie qu'on a aujourd'hui. La classe moyenne, ce n'était pas quelque chose qui existait. Et donc, les gens se convertissaient, devenaient chrétiens, puis tu avais des esclaves puis des riches qui étaient ensemble dans l'Église. C'est régulièrement adressé dans les lettres de Paul parce que ça occasionnait toutes sortes de problèmes dans l'Église. C'est ça que Jacques est en train d'adresser ici. Et donc, Jacques est en train de dire aux riches chrétiens, « Ne soyez pas comme des riches qui ne connaissent pas Dieu. Comprenez à quoi servent vos richesses. Puis, je comprends que lorsqu'on lit ça, on se dit, ben là, ici à l'Église, je ne pense pas qu'il y a des gens qui font des choses aussi abominables. C'est plus facile de voir les angles morts de quelqu'un d'autre que nos propres angles morts. Si je vous parle des chrétiens qui habitaient dans le sud des États-Unis avant la guerre de sécession, des esclavagistes qui n'admettaient pas des gens de couleur noire dans leurs églises de blancs. Et donc, tu avais une église évangélique noire avec une église évangélique blanche. Les deux, c'était interdit de se côtoyer. Et pourtant, ils chantaient des beaux cantiques comme ça. Puis là, on regarde ça, nous autres, avec la distance physique, avec la distance de l'époque, puis on dit, « Ah! Ça se peut pas! C'est une autre Bible! Ils n'ont pas la même Bible que nous! » C'est tellement facile de voir les angles morts chez les autres. Tellement difficile de voir nos angles morts. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur cette idée de favoritisme, pour qu'on puisse aller devant le Seigneur et dire, « Seigneur, remets-moi en question. » Montre-moi mes angles morts avec mes biens matériels, avec le favoritisme. Comment est-ce que je me sers de mes richesses? Comment je regarde les gens qui sont moins choyés que moi? Puis comment je les approche? Puis c'est quoi ma relation avec eux? Puis est-ce que je cherche à être en rapport avec eux, en relation avec eux? Est-ce que tu aurais le courage de mettre la question autour de la table au dîner tantôt puis de dire, hey, c'est quoi nos angles morts? C'est quoi mes angles morts avec nos biens matériels? Dans ton petit groupe cette semaine, est-ce que tu aurais le courage de dire, s'il y en a qui voient que j'ai des angles morts, j'aimerais ça que vous veniez me voir et que vous me remettiez en question. Parce que si c'est des angles morts, je peux avoir beaucoup de difficultés à les voir. Dans ma manière de gérer mes ressources financières, matérielles, mon temps. Est-ce que vous auriez le courage de faire ça? Vous voulez que je vous donne un truc pour le trouver? Cherchez autour de vous la personne la plus pauvre que vous connaissez, dans l'église ou à l'extérieur de l'église. Allez prendre un café avec, puis demandez-lui, d'après toi, c'est quoi mes angles morts? Cette personne-là a peut-être assez de distance pour les voir, puis te remettre en question. D'après toi, dans ce que tu perçois de moi, là, en quoi est-ce que j'ai de l'air d'un riche qui n'a pas été visité par l'Évangile? Dieu pourrait vous bouleverser. Alors, quelques manières injustes de se servir de nos richesses, de nos possessions, je vais y aller très rapidement. L'accumulation. Jacques dit, « Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par la teigne. » Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Il y a un moment où accumuler devient indécent et inutile. Et Jacques nous dit que notre manière de gérer nos biens rend témoignage de nous. Tu veux savoir c'est quoi tes angles morts? Pose-toi la question. Ta manière de gérer ton argent, ton porte-monnaie, tes biens matériels, ta voiture, tes chars, n'importe quoi, peu importe. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il y a quoi que ce soit de mal là-dedans, mais quel témoignage ça rend de toi? Parce que ça rend un témoignage de toi. Quel témoignage rend de moi mes possessions, la gestion de mes biens? Par exemple, dans notre société, je pense qu'on est des acheteurs compulsifs. Vous avez juste à déménager, vous allez le remarquer. Quand c'est le temps de faire les boîtes? Non. Tu installes 10 ans dans une maison puis tu déménages. Ceux qui passent d'une maison à un condo là, en vieillissant, là, vous savez de quoi je parle? Et tu dis, ça n'a aucun bon sens tout ce que j'ai accumulé. As-tu vraiment besoin de tout ça? T'sais? Évidemment, la fraude. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques dit que Dieu examine si on est honnête dans notre gestion de nos ressources. Et ce n'est pas seulement un témoignage envers les autres. Ma manière de gérer mon bien, mon travail, les responsabilités financières qui sont sous moi, Dieu assiste à ça, observe ça et témoigne des injustices. Enfin, la complaisance, c'est-à-dire se complaire confortablement à juste jouir de mes richesses pour moi-même. Et il y a une place pour jouir de mes richesses. L'Ecclésiaste est vraiment clair là-dessus. Dieu ne veut pas qu'on vive toutes comme des pauvres, comme Crésus. Au contraire, faites un festin, invitez quelqu'un à le partager avec vous. Invitez quelqu'un à manger chez vous. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, Jacques 5:5. Vous avez profité au maximum et gardé pour vous-même toutes ces richesses. Mes standards sont appelés à changer radicalement quand je viens à la connaissance de Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe si je prends ces trois péchés-là, une accumulation à l'excès, de la fraude, de la complaisance, puis que je viens simplement, brièvement, les réviser avec l'Évangile, juste les passer au tamis de l'Évangile. Je veux juste vous rappeler ce beau passage dans Philippiens 2, les versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Lorsque j'apprends à fixer les regards sur Christ au quotidien, puis je dis, « Seigneur, j'ai besoin à tous les jours que l'Évangile vienne m'amener à revoir mes attitudes, mes comportements, mes agissements, mon système de valeurs. L'Évangile, c'est ce que toi t'as fait pour moi, Seigneur. Toi qui t'es dépouillé, toi qui t'es fait serviteur. Quand je prends le temps de considérer ce que Christ a fait pour moi, il n'y a pas de place pour une vision de l'accumulation sans fin. L'accumulation pour l'accumulation de richesses ne fait plus aucun sens quand je connais Jésus-Christ. Il y a de la place pour être sage, pour prévoir pour l'avenir, pour avoir une provision, pour planifier des choses, mais accumuler pour accumuler, quand tu connais vraiment Jésus-Christ, ça ne fait plus aucun sens, parce que tu sais que dans quelques années, c'est fini ça. Tu laisses ça en arrière, puis t'entres dans l'éternité. Tu sais que ça ne dit rien sur ta valeur. Ça ne définit en rien ton statut. Et donc, accumuler pour accumuler ne fait plus aucun sens quand je connais Jésus-Christ. La fraude, évidemment. Mes richesses sont là pour bénir les gens. La complaisance, juste accumuler pour moi-même puis jouir seul de mes richesses, ça ne fait plus aucun sens quand je connais l'Évangile. Je veux entrer dans la générosité de Christ. Je veux être riche, mais riche en bonnes œuvres. Je veux être riche, mais riche en générosité pour les autres, c'est ça que je veux. Est-ce que tes finances, ta gestion de tes biens a été sanctifiée? Est-ce que la générosité de Jésus-Christ est venue transformer ta gestion de tes richesses? Et j'aimerais ça, en terminant, vous donner quelques pistes de réflexion, d'accord? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure dans la prière lorsque j'ai commencé, je suis conscient qu'il ne doit pas y avoir grand monde ici qui dise « Sérieusement, là, je suis comme riche au point que je peux faire des chèques n'importe quand. » On vit à une époque où les choses coûtent cher quand même. Beaucoup de gens, on trime quand même juste pour arriver. Puis c'est pas vrai qu'on peut tirer de l'argent par les fenêtres. Puis en même temps, c'est vrai de dire qu'on vit à une époque où l'humain moyen est plus riche qu'il l'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Puis là, si tu vis en Occident, puis si tu vis en Amérique, c'est encore plus vrai, ça. Fait qu'il y a cette espèce de paradoxe-là, tu sais, où le riche dans l'Église, c'est probablement pas le riche exactement dont Jacques parle, qui était comme, c'était honteux de voir tout ce qu'il y avait. Mais en même temps, si tu as la grâce, comme je l'ai eu, d'aller faire un tour en Haïti, bien, tu reviens ici, puis tu as comme un petit peu mal au cœur, tu sais. Un petit peu mal au cœur pendant une couple de jours, puis tu dis, je pense qu'il y a des trucs où nos valeurs sont pas aux bonnes places, là. Avec le temps, avec les relations humaines, où ils sont tellement riches de ça, puis avec les biens matériels. Alors, je vais vous donner des pistes, d'accord? Parce que nos richesses, c'est notre argent. Nos richesses, c'est notre possession. Nos possessions, notre maison, nos voitures. Nos richesses, c'est notre éducation, c'est notre instruction. Dans une église comme la nôtre, partager vos richesses, ça peut vouloir dire des fois des choses toutes simples. Si tu es un immigrant et que tu arrives ici, tu as besoin qu'il y ait des gens qui prennent du temps avec toi pour te faire connaître toutes les ressources. Puis peut-être que ta plus grande richesse que tu as à partager, c'est du temps. Quand tu arrives ici, tu as besoin d'établir toutes tes relations. Tu pars à zéro. Puis peut-être que c'est ça la richesse que tu as apportée. Quand tu commences à aller aider des gens qui vivent dans la pauvreté, tu découvres assez vite que ce n'est pas simplement la pauvreté financière qui est problématique. C'est que ces gens-là, souvent, ont une pauvreté juste dans l'organisation de leur vie. Leur vie est compliquée. Ils reviennent de loin. Ça va prendre du temps, ça. Juste d'avoir quelqu'un qui s'assoit pour faire un budget, juste d'avoir quelqu'un qui t'encourage quand tu retombes pour la 8e fois. Tu rechutes, puis tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. Puis tu possèdes cette richesse-là. Puis dans l'Église, il y a des gens qui arrivent puis ils sont hypothéqués par la vie. Pas juste financièrement, ils sont hypothéqués. Puis tu as du temps, puis tu as de la connaissance, puis tu as de l'expérience. Puis tu pourrais faire de l'espace pour prendre du temps avec eux, pour les inviter chez toi, pour les inviter à manger. Tu as une maison. Puis tu peux juste inviter. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est une grâce pour quelqu'un qui vit dans l'isolement, dans sa pauvreté à... Tous les jours, ce qu'ils voient, c'est des problèmes, puis comment je vais m'en sortir, puis il est obsédé par ces problèmes. Puis d'avoir quelqu'un qui va simplement venir et qui va dire, viens manger chez nous. Viens manger chez nous. Viens, je vais te traiter là comme une personne qui est digne d'être traitée comme telle. Viens prendre du temps chez moi. Je ne peux pas régler tous tes problèmes, je n'ai pas toutes les ressources pour toi, mais je peux t'accueillir chez moi. Puis te redonner cette dignité-là. On est impliqué avec des gens à la bouffe pour tous, puis honnêtement, sincèrement, je pense que la plus grande richesse qu'on leur apporte, c'est d'être là pour eux puis de les aimer. Puis ça arrive régulièrement lorsqu'on commence à être présent dans la vie de certaines personnes qu'il y a des doutes qui sont émis. Les gens attendent le moment où on ne retournera pas l'appel. Ils attendent le moment où on ne sera plus là. Je suis sérieux, là, j'ai des images et des gens en tête. Ils attendent le moment où on va les abandonner. Puis c'est pas qu'on est parfait et on n'abandonne jamais personne, Dieu sait. Même dans l'Église, peut-être que vous avez été abandonné dans l'Église, on vous a négligé. Mais on a beaucoup de richesses à partager. Et nos richesses sont multiples. Et Dieu nous appelle à être généreux. Et comme Basile nous le rappelait bien la semaine dernière, il y a un coût à ça. Si ma générosité ne me coûte pas quelque chose, ce n'est pas de la générosité, c'est que je partage mes restants de table. Oh, on va le perdre. On en a trop cette semaine. Veux-tu? On va finir aux poubelles. Ce n'est pas de la générosité, ça. C'est juste ta conscience qui dit de ne pas le mettre au vidange. C'est pas de ça que je parle. C.S. Lewis dit ceci. Si notre charité ne nous fait pas un peu souffrir, ne nous coûte pas grand-chose, je dirais qu'elle est trop petite. Il devrait y avoir des projets que nous aimerions réaliser, mais qui seront empêchés par notre générosité. L'argent est une expression de la bonté de Dieu, puis en avoir dit bien peu sur nous. L'Évangile nous enseigne la générosité. Et dans l'Église, on devrait savoir que notre valeur, notre identité ne repose pas dans les richesses. Cette semaine, il y a eu deux drames. Je ne sais pas si vous avez attrapé dans les médias, mais il y a deux personnes qui avaient tout le succès aux yeux du monde. Kate Spade, qui a réussi dans le domaine de la mode, une dame extrêmement riche, un grand succès. Anthony Bourdain, un animateur canadien, un homme raffiné, un homme de culture, un homme instruit, extrêmement populaire. Ces deux personnes-là se sont enlevées la vie. Il y avait beau avoir les richesses, avoir le standing, il y avait quelque chose profondément en eux qui leur manquait dans leur identité. Et c'est cette grâce de savoir que Dieu m'aime en Jésus-Christ. Et dans l'Église, on doit être là pour combattre tout favoritisme. Puis au contraire, s'accueillir les uns les autres. Puis être généreux. Puis prendre soin. Puis redonner la dignité à chaque être humain. Amen? Et l'Église doit être ça, les amis. Puis cette semaine, je priais, puis je disais au Seigneur, je vois tellement de générosité dans cette Église-ci. Je pourrais m'asseoir avec vous, puis vous en raconter, puis vous en raconter, puis vous en raconter. Je suis témoin de tellement de générosité. Mais peut-être qu'il y a encore des angles morts où le Seigneur veut nous faire grandir, puis il veut nous travailler. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer, on veut te célébrer. Parce que tu as quitté la gloire auprès de ton Père et tu t'es humilié. Tu as été généreux, d'une générosité qui t'a coûté extraordinairement cher. Et Seigneur, on a certainement des angles morts alors qu'on est en train de faire cette série sur la miséricorde. Il y a sûrement des angles morts, Seigneur. On a besoin que toi, tu nous les montres et que tu nous aides à nous reposer dans cette identité que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, on te confesse qu'on est humain, puis il y a des gens qui sont plus propres, plus beaux, plus agréables. On est attiré par ces gens-là, Seigneur, alors qu'en réalité, tu veux qu'on soit attiré par celui qui a besoin de notre aide, comme le bon Samaritain. Qu'on accepte ces détours divins, inspirés par l'Évangile, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à grandir dans notre générosité. Merci pour tout l'amour qu'il y a dans cette Église, tous ces moments, toutes ces histoires dont je suis témoin, Seigneur, dont on est témoin, où il y a des gens qui prennent soin de quelqu'un d'autre, qui ouvrent leur maison, qui accueillent une autre personne, qui s'entraident, qui donnent du temps, qui se supportent dans la prière, Seigneur. Merci pour l'Église. Fais-nous grandir là où tu veux encore nous faire grandir, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.